Philippe Cadic, Nouvelle, Nouveau modèle, partie 4 sur 4. Agrippant son arme, Tasso se mit à tourner en rond autour du feu. Le commandant Hendrix était toujours allongé sur le sol, immobile, les yeux clos. La grisaille gagnait de plus en plus dans le ciel. Le paysage, plein de cendres à perte de vue, redevint visible. Cendres, bâtiments en ruine, murs effondrés, ça et là, tas de gravats, troncs d'arbres isolés. L'air était froid et sec. Au loin, un oiseau lança quelques notes sinistres. Hendrix remua et ouvrit les yeux. « Le jour est déjà levé ?»«
Oui. »
Il se redressa en position assise. « Vous vouliez savoir quelque chose, vous me questionniez. »«
Vous vous souvenez maintenant ?»«
Oui. »«
Qu'est-ce que c'était ?»
Elle se raidit.
« Alors ?»
répéta-t-elle sèchement. C'était un puits en ruine. Il se trouve dans un caisson enterré sous un puits.
Un puits ?
Tasso se décontracta.
Il nous faut donc le trouver.
Elle regarda sa montre.
Il nous reste environ une heure, commandant. Vous croyez qu'on peut y arriver en une heure ?
Aidez-moi donc à me relever, répliqua Hendrix. Elle rengaina son arme et l'aida à se mettre debout.
Ça ne va pas être facile.
En effet, Hendrix pinça les lèvres.
Je ne crois pas que nous irons bien loin.
Ils se mirent en marche. Le soleil levant leur dispensait un peu de chaleur, la terre était toujours aussi plate et désolée. Quelques oiseaux traçaient en silence des cercles très haut dans le ciel.
« Vous voyez quelque chose ?»
dit Hendrix. « Pas de griffes ?»«
Non, pas encore. »
Ils traversèrent un champ de ruines parsemé de pans de béton dressé, de briques éparses et de dalles en ciment. Des rats détalèrent sous leurs pas. Méfiante, Tasso fit un bond en arrière.
Avant, c'était une bourgade ici, dit Hendrix. Un village français. Autrefois, il y avait des vignobles partout dans cette région.
Ils débouchèrent dans une rue dévastée, envahie d'herbes folles et parcourue de craquelures. Sur la droite, s'élevait une cheminée de pierre.
Faites attention,
avertit Hendrix. Une cavité s'ouvrait devant eux. Un ancien sous-sol, désormais béant, hérissé de tuyaux tordus. Ils longèrent les restes d'une maison, une baignoire renversée, une chaise cassée, des morceaux de faïence, quelques cuillères. Au centre de la rue, le sol formait une dépression emplie d'herbes sauvages, de débris divers et d'ossements.
« Par là !»
murmura Hendrix.
« Dans cette direction ?»«
Vers la droite !» Ils passèrent ensuite devant une carcasse de chars d'assaut. Le compteur de Hendrix émit des cliquetis menaçants. L'engin avait manifestement reçu une bombe à radiation. À quelques mètres de là gisait un corps momifié, bras et jambes écartés, la bouche ouverte. De l'autre côté de la route s'étendait un champ plat jonché de cailloux, de mauvaises herbes et de morceaux de verre brisés.
« Là !»
indiqua Hendrix. Un puits en pierre à demi affaissé, surmonté de quelques planches, se profilait au-dessus du sol. Ce n'était presque plus qu'un tas de gravats. Hendrix s'en approcha, d'un pas mal assuré, Tasso à ses côtés.
« Vous êtes sûr que c'est là ?» s'enquit-elle. « Ça n'a pourtant l'air de rien. »
« Certain. »
Les dents serrées, le souffle court, Hendrix s'assit sur la margelle et épongea la sueur qui ruisselait sur son visage.
Cette disposition a été prise afin que l'officier le plus gradé puisse s'échapper en cas de coup dur. Si le bunker est pris, par exemple.
Et cet officier, c'est vous ?
Oui.
Où est le vaisseau ? Ici même ?
Sous nos pieds.
Hendrix caressa les pierres du puits. L'œil électronique ne répond qu'à moi. C'est mon vaisseau personnel, du moins. C'était. Un fort déclic. Bientôt suivi d'un raclement grave quelque part sous leurs pieds.
« Reculez !» dit Hendrix.
Tasso et lui s'écartèrent. Un morceau de sol glissa de côté, une structure métallique s'éleva lentement en perçant la cendre, chassant végétation et décombres. Le mouvement s'interrompit lorsque le nez du vaisseau apparut.
« Le voilà !» constata Hendrix.
Pas très grand, telle une grosse aiguille émoussée, il reposait immobile dans son maillage de soutien. Une pluie de cendres se déversa dans la cavité obscure. Hendrix s'approcha, s'engagea sur le filet et déverrouilla l'écoutille. On apercevait à l'intérieur le tableau de bord et le siège pressurisé. Tasso vint se tenir à ses côtés et contempla la cabine.
« Je ne sais pas piloter les fusées. » dit-elle après un silence.
Hendrix lui jeta un coup d'œil.
« Je m'en charge. »«
Ah oui ? Il n'y a qu'un siège là-dedans, commandant. Je vois que ce vaisseau a été conçu pour une seule personne. » Le souffle de Hendrix s'altéra. Il examina attentivement la cabine. Tasso avait raison. Il n'y avait qu'un siège. La fusée était belle et bien prévue pour un seul passager.
« Je vois, » fit-il lentement. « Et cette personne, c'est vous ?»
Elle hocha la tête.
« Bien sûr !»« Et pourquoi cela ?»«
Parce que vous ne pouvez pas partir. Vous ne survivriez peut-être pas au voyage. Vous êtes blessé. Vous n'arriveriez sans doute pas vivant sur la Lune. »
« Intéressant. Seulement, voyez-vous, je sais où se trouve la base. Pas vous. » Vous pourriez tourner autour de la Lune pendant des mois sans la trouver. Elle est bien cachée. Sans point de repère, vous ne...
Je prends le risque. Je ne la trouverai peut-être pas toute seule, mais je crois que vous me donnerez les indications nécessaires.
Votre vie en dépend.
Comment cela ? Si je trouve la base lunaire à temps, je pourrais peut-être les convaincre de vous envoyer un vaisseau. Si je la trouve. Sinon, vous n'avez pas l'ombre d'une chance. J'imagine qu'il y a des provisions à bord, elles dureront assez longtemps pour que je... Hendrix réagit sans attendre, mais son bras blessé le trahit. Tasso l'évita avec souplesse et sa main se leva avec la rapidité de l'éclair. Hendrix vit la crosse s'abattre sur lui et tenta de parer le coup, mais elle fut trop rapide. Le coup l'atteignit à la tempe, juste au-dessous de l'oreille. Une douleur paralysante l'envahit. Il n'y avait plus que la douleur et des vagues de ténèbres. Il glissa à terre. Vaguement, il sentit que Tasso, debout auprès de lui, le poussait du bout du pied.
« Commandant, réveillez-vous !»
Il gémit et ouvrit les yeux.
« Écoutez-moi !»
Elle se pencha et lui braqua son arme en pleine figure.
« Je dois faire vite, il ne me reste pas beaucoup de temps.
La fusée est prête à décoller, mais vous devez me donner les renseignements dont j'ai besoin. » Hendrik secoua la tête et s'efforça de réfléchir. « Vite ! Où se trouve la base lunaire ? Comment arrive-t-on jusqu'à elle ? Quels sont les points de repère ?» Hendrik garda le silence. « Répondez-moi !»«
Non, je regrette. »
« Commandant, le vaisseau est bourré de provisions. Je peux tourner autour de la Lune pendant des semaines. Je finirai forcément par trouver la base, mais vous, dans une demi-heure, vous serez mort. Votre seule chance de survivre !» Elle s'interrompit. Sur la pente près des ruines, quelque chose avait bougé. Dans les scories, Tasso se retourna vivement, visa et tira aussitôt. Son arme cracha une bouffée de flamme. Quelque chose détala en roulant sur la cendre. Tasso tira de nouveau. La griffe éclata en vomissant ses rouages. « Vous voyez ? » dit-elle. « Un éclaireur. Ce ne sera plus très long maintenant. »«
Vous leur direz de venir me chercher ?»«
Oui, dès que possible. » Hendrik leva les yeux et étudia attentivement la jeune femme.
« Vous dites la vérité ?»
Une curieuse expression avide se peignait à présent sur les traits du commandant.
« Vous reviendrez me chercher ? Vous m'emmènerez jusqu'à la base lunaire ?»«
Oui, si vous me dites seulement où la trouver. Le temps presse !»«
Bon. »
Hendrik ramassa un caillou et se redressa péniblement.
« Regardez bien. »
Il se mit à dessiner dans la couche de cendre. Debout, près de lui, Tasso suivait les mouvements du caillou. Hendrik se traçait une carte sommaire de la Lune.
« Voici la chaîne des Apennins, et là,
le cratère d'Archimède. La base est tout au bout des Apennins, à 300 kilomètres environ. Je ne sais pas exactement où, personne ne le sait sur Terra. Mais quand vous serez au-dessus de la chaîne, faites le signal suivant. Une fusée éclairante rouge, puis une verte, suivie de deux autres rouges en succession rapide. » Le moniteur de la base enregistrera votre signal. Elle se trouve naturellement sous la surface. Ils vous guideront grâce à des grappins magnétiques.
Et les commandes ? Je vais m'en sortir ?
Le pilotage est pratiquement automatique. Vous n'avez qu'à donner le signal voulu au moment requis.
Très bien.
Le siège absorbe la quasi-totalité du choc au décollage. L'aération et la température ambiante sont contrôlées automatiquement. Le vaisseau quittera Terra, gagnera l'espace de lui-même et s'alignera sur la Lune où il se mettra en orbite à environ 150 km de la surface. Cette orbite vous mènera au niveau de la base. En passant au-dessus des Apennins, lâchez les fusées éclairantes.
Tasso se glissa dans le vaisseau et s'allongea sur le siège pressurisé. Les bracelets de maintien se refermèrent automatiquement sur ses bras. Elle manipula les commandes du bout des doigts.
« Dommage que vous ne soyez pas du voyage, commandant. Tout ceci vous était pourtant destiné. »«
Laissez-moi au moins le revolver. »
Tasso le tira de sa ceinture et le soupesa pensivement. « Ne vous éloignez pas trop, il sera déjà assez difficile de vous retrouver. »«
D'accord, je resterai près du puits. »
Tasso saisit la manette de décollage et passa ses doigts sur le métal lisse.
« Un bien beau vaisseau, commandant. » « Admirablement conçu. J'admire votre savoir-faire. Vous autres, vous avez toujours su travailler, fabriquer de grandes choses. Vos créations sont vos plus belles réussites. »«
Donnez-moi ce revolver, » dit impatiemment Hendrik en tendant la main et en s'efforçant tant bien que mal de se mettre debout.
« Adieu, commandant. »
Tasso lança le revolver derrière Hendrik. L'arme atterrit avec fracas, rebondit et s'éloigna en roulant sur elle-même. Hendrik se hâta d'aller la ramasser. Au moment où il s'en emparait, l'écoutille se referma avec un bruit métallique et les verrous se mirent en place. Hendrik revint vers le vaisseau, la porte intérieure se scellait à son tour. D'une main tremblante, il leva le revolver. Un rugissement assourdissant. Le vaisseau jaillit brusquement de sa cage métallique, faisant fondre les mailles dans son sillage. Hendrik se recroquevilla, recula précipitamment, la fusée fila d'un coup et s'enfonça presque aussitôt dans les nuages. Hendrik continua à fixer le ciel longtemps après que le sillage blanc de l'engin se fût dissipé. Rien ne bougeait. L'air matinal était froid, silencieux. Il se mit en route,
en suivant plus ou moins le chemin qu'il avait emprunté pour rejoindre le puits. Mieux valait se déplacer sans cesse. Les secours mettraient longtemps à venir, s'ils venaient jamais. Il fouilla ses poches jusqu'à ce qu'il trouve un paquet de cigarettes. Moussad, il en alluma une. Ils lui avaient tous demandé des cigarettes. Elles étaient pourtant rares. Un lézard se coula dans la cendre près de lui. Hendrik se figea. L'animal disparut. Le soleil montait dans le ciel. Sur son passage, des mouches vinrent se poser sur une pierre plate. Il les dispersa d'un coup de pied. Il commençait à faire chaud. La sueur coulait sur son visage et s'infiltrait sous son col. Il avait la bouche sèche. Il s'arrêta enfin. Il s'assit sur un tas de décombres, puis il ouvrit sa trousse de secours, avala quelques comprimés analgésiques et regarda autour de lui. Où se trouvait-il ? Il y avait quelque chose devant lui, étalé sur le sol, quelque chose de silencieux et d'immobile. Hendrik dégaina rapidement. On aurait dit un homme. Puis cela lui revint. C'était les restes de Klaus, bien sûr. Klaus, le modèle 2. Il gisait là où Tasso l'avait pulvérisé. Il en distinguait encore les rouages et autres pièces métalliques qui étincelaient au soleil, ça et là, sur la cendre. Il s'approcha et poussa du pied la forme inerte pour la décoller du sol. Une coque métallique, des côtes et des tiges de maintien en aluminium. Divers circuits se détachèrent, comme des viscères. Un véritable fouillis de fils, de commutateurs, de résistances, de moteurs et de broches. Il se pencha. La boîte crânienne s'était brisée dans sa chute. Le cerveau artificiel était visible. Hendrik l'examina. Un labyrinthe complexe de circuits, de tubes miniaturisés, de fils fins comme des cheveux. Il en effleura le logement qui bascula d'un coup. La plaque de série apparut. Hendrik la lut et blêmit. M4. Longtemps, il fixa la plaque. M4. Et non, M2. Il s'était trompé, il existait plus de modèles qu'il n'avait cru. Il n'y en avait pas trois, mais peut-être beaucoup plus, et Klaus n'était pas du modèle 2. Mais alors ? Subitement, il se tendit. On venait de l'autre côté de la colline. Mais qui ? Ou quoi ? Il s'efforça de distinguer quelque chose. Des silhouettes qui pataugeaient lentement dans la cendre et qui venaient vers lui. Hendrik s'accroupit prestement et leva son arme. La sueur lui coulait dans les yeux. Il lutta contre la panique croissante qui l'envahissait. Les inconnus approchaient toujours. Le premier était un David, qui pressa le pas en l'apercevant. Les autres l'imitèrent. Un deuxième David, puis un troisième. Trois David identiques avançant vers lui en silence, impassibles, portés par leurs jambes maigres, un ours en peluche serré sur la poitrine. Hendrik suit feu. Les deux premiers David se transformèrent en nuages de particules. Le troisième continua d'avancer, ainsi que la silhouette qui venait sur lui sans mot dire. Un soldat blessé qui dominait le David de toute sa hauteur. Alors il vit que derrière le soldat blessé venaient deux tasseaux marchant côte à côte. Lourd ceinturon, pantalon de l'armée russe, chemise, longs cheveux. La silhouette familière qu'il avait vue un moment plus tôt sur le siège pressurisé du vaisseau, mais multipliée par deux. Deux minces silhouettes, identiques et muettes. Ils étaient tout près maintenant. Soudain, le David se baissa et lâcha son ours en peluche qui se rua vers Hendrik. Celui-ci appuya machinalement sur la détente. L'ours disparut, volatilisé. Les deux modèles Tasso continuèrent d'approcher ensemble, l'air neutre. Quand ils furent presque sur lui, Hendrik leva son arme à hauteur de sa ceinture et tira. Les deux Tasso se volatilisèrent à leur tour, mais déjà un nouveau groupe gravissait la pente. Cinq ou six Tasso semblables venant rapidement vers lui, les unes derrière les autres. Il l'avait laissé prendre le vaisseau. Il lui avait révélé le signal codé. À cause de lui, elle était en route vers la Lune, vers la base. Il lui avait fourni l'occasion qu'elle cherchait. Il avait vu juste pour cette bombe, finalement. Elle avait été conçue pour tenir compte des autres modèles. Le David, le soldat blessé, le modèle Klaus, mais pas par des humains. Elle avait été fabriquée dans une usine souterraine, loin de tout contact humain. La rangée de Tasso était presque sur lui. Hendrix s'arma de courage et le regarda venir calmement. Ce visage familier, ce ceinturon, cette épaisse chemise, la bombe bien à sa place. La bombe.
À l'instant où les Tasso s'emparaient de lui, une ultime pensée tout empreinte d'ironie lui traversa l'esprit et lui procura par la même occasion un certain réconfort.
La bombe, conçue par le modèle 2 pour éliminer les autres modèles. Et pour cela seulement.
Ils en étaient déjà à créer des armes afin de s'anéantir mutuellement.
Yeah, that's a good guy. No, you keep him. That's your friend. Where do you live? In there?
Yes.
In the ruins? How many are you? How many people?
You're not all by yourself, are you? How do you survive?
Food.
What kind of food?
Different.
How do you keep away from the screamers?
Screamers?
The blades in the ground that kill.
I hide. Can I come with you?
No. You stay here. Jefferson, give me a macro ration. I'll give you something to eat, and you stay here. It will come back for you, okay? 2 or 3 days, we'll find you. Here, you take this. You tear this, you eat it.
I don't want to come with you now.
You can't come with us now. We'll come back here in 2 days, all right? Here, you take care of this guy, okay?
Sir, we can't just leave him here.
I said no, Jefferson.
Sir, he's just a kid. He'll never survive. I don't know how he made it this far.
Jefferson, what am I saying?